Kazupo, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Aujourd'hui, c'est avec gourmandise que je reçois une surprenante invitée qui va nous faire saliver. C'est dans une bakerie en Australie qu'elle a son tout premier coup de fouet, son premier coup de foudre. Elle reste baba devant un opéra. Elle décide de tout plaquer. Fini les rêves de devenir prof de sport, elle troque les gants de boxe pour le tablier, les pâtisses, poches et autres spatules. Son ring, c'est décidé, ce sera la pâtisserie. Elle conserve son esprit de compétition et sera sacrée championne du monde des arts sucrés. Elle côtoie les plus grands Lutetia, Omerys, chez Ducasse, mais comme elle ne rentre décidément dans aucun moule, elle rêve d'une pâtisserie légère et sans culpabilité, elle veut bousculer les codes du métier, les réinventer, les dépoussiérer. Son merveilleux, l'aventure humaine, les rencontres, l'entrepreneuriat, c'est le début de l'atelier Orae. Aujourd'hui, on va être étonné, bousculé et inspiré. Bref, on va se régaler. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite présentation?
Oh, j'adore. Je pense que j'écoutais attentivement tout ce que tu disais et je me suis dit, mais c'est hyper juste et c'est assez poétique comme tu le dis et c'est rythmé exactement comme je l'ai vécu. Donc, non, vraiment bravo. Je pense que ouais. C'est la meilleure, une des meilleures présentations qu'on ait pu me faire.
Bah écoute, je suis ravie.
Ouais,
alors,
ça.
On est ensemble aujourd'hui pour parler management.
Oui.
Alors, je voulais que tu me parles de tes premières expériences en tant que manager. Oui. Comment ça s'est passé pour toi?
Bah, moi, en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde de l'entreprise, finalement, je savais pas ce que c'était le management. Voilà, tu rentres dans l'entreprise, t'as un poste, t'as une fiche de poste, tu viens pour un boulot. Et puis après, tu te rends compte que, ah bah tiens, on travaille avec d'autres humains. Et puis ces autres humains, bah en fait, ils ont tous des caractères différents. Et puis en fait, tu te rends compte rapidement qu'il y a des jeux psychologiques qui se passent, des jeux de pouvoir, des jeux dans tous les sens, hein, des jalousies, plein de choses qui se passent dans une entreprise. Et donc moi, j'ai commencé à me dire, waouh, en fait, c'est pas si simple de travailler ensemble. Alors moi j'essayais toujours d'arrondir les angles, toujours m'adapter aux autres et tout. Et tu te rendais aussi compte que si, selon qui dirigeait l'équipe, en fait ça donnait une ambiance différente. Et moi qui suis extrêmement sensible aux énergies, je me suis dit, oulala, les entreprises ça va être très compliqué pour moi. Parce qu'en fait, je choisis jamais l'équipe avec laquelle je vais travailler, sauf si un jour je deviens chef dans une entreprise. Et donc du coup, ça va être très long tout ça. Donc je me suis dit, est-ce que d'ailleurs je vais vraiment évoluer aussi vite que je le souhaite dans une entreprise? En plus, tu as bien dit, hein, brigade, pâtisserie, hiérarchie, on est entre 10 et une vingtaine dans les palaces parisiens, dans les endroits où moi j'évoluais. Et donc du coup, tu te dis, ben, avant de gravir les échelons, il va falloir travailler beaucoup et supporter beaucoup de, des attitudes ou des comportements pas cool. Et moi, j'ai pas du tout eu envie de supporter ça. Donc en fait, j'ai décidé de prendre d'autres voies. Comme tu as dit, je ne rentre pas dans le moule.
C'est ça. Donc finalement, en fait, tes expériences managériales n'étaient pas top. Hein, elles étaient un peu dépassées pour toi.
Oui. En tout cas, dès que je suis rentrée dans le monde du travail où il y avait un enjeu d'évolution, tu vois, pas quand tu fais des petits jobs d'été, tu te rends pas vraiment bien compte en fait de ça. Mais quand tu commences à vouloir rentrer dans une brigade, à te projeter dans des perspectives d'évolution, tu te dis ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut gérer ces gens, parfois en dessous de toi ou au-dessus de toi, ils peuvent être odieux, ils ont des comportements changeants, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, toi t'es toujours d'humeur égale, mais donc du coup voilà. Et moi qui suis extrêmement sensible, extrêmement aussi je pense exigeante, je peux pas me satisfaire de manière générale, mais encore moins vu que je suis très sensible, de mauvaises ondes. Donc du coup ça m'a poussée à sortir des rangs justement.
Et du coup c'est quoi les mauvaises ondes pour toi concrètement en fait? Qu'est-ce qui te polluait ou qu'est-ce qui te manquait?
Ce qui est difficile à vivre, c'est quand les gens avec qui tu travailles jouent des coudes pour de leur intérêt personnel, ils sont pas contents, ils râlent, etc. Ils s'en fichent un peu du déversoir négatif qu'ils envoient. Et toi t'es là alors que là pour faire de la qualité. En plus, on est quand même dans des palaces parisiens. Donc, il y a une intention de toujours être dans l'excellence pour le client. Donc, t'as déjà beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression. Et en plus, si tu dois taper, tu vois, des collègues qui sont soit des mecs qui sont hyper violents parce que, voilà, ils veulent la rigueur, mais ils sont pas du tout pédagogues. Ou bien l'autre qui arrive, qui râle, qui est pas bien sa peau, qui est pas aligné. Parce que du coup, forcément, tout ça, c'est un beau méli-mélo négatif, parce que quand t'as ton chef qui te met beaucoup de pression, du coup les personnes, quand elles rentrent chez elles, elles sont pas très bien, après elles peuvent se disputer, enfin bref, après c'est le cercle vicieux, tu vois, qui c'est l'engrenage négatif. Donc si tu veux, si t'as pas un bon esprit d'équipe et initié depuis le haut, en fait tu peux pas entretenir une bonne énergie au quotidien. Toi, en fait, t'es une marionnette au milieu de tout ça, qui essaie de s'échapper, s'extirper, s'adapter à ce vaste boogie-boulga et émotionnel.
Finalement, il te manquait, t'avais tout pour être heureuse, entre guillemets, dans ton métier, dans ta passion, mais il te manquait l'ingrédient, la petite cerise sur le gâteau, c'est l'humain, en fait.
Ouais, l'humain épanoui, l'humain qui est là pour évoluer et dont finalement le manager a compris qu'il était là pour faire grandir ses équipes. Et puis bon, voilà, on n'assiste pas du tout à ça. On assiste plutôt à il faut produire de la qualité à l'instant T pour le client, mais il n'y a pas de perspective longue. C'est très court-termiste. Donc du coup, les équipes, en fait, elles donnent tout ce qu'elles ont pour le CV, pour l'expérience. Et puis une fois qu'elles n'ont plus de jus, en fait, elles s'en vont. Donc, toi, moi, j'ai pas du tout, dans ma perspective d'évolution, eu envie de vivre ça et envie de faire vivre ça. Donc tu vois, c'est beaucoup, je ternis un tableau assez noir, même si j'ai rencontré des belles personnes, mais en réalité, j'ai un avis, oui, assez tranché sur la question, et du coup, pour moi, il n'y avait rien qui correspondait, aucun, même à l'école du CAS, où au début, c'était super, mais après, tu vois, il y avait de nouveau des jeux de pouvoir, des femmes aussi, tu sais, qui sont... qui peuvent être jalouses, etc. Et donc, toi, tu le ressens. Elles peuvent toujours te dire pas du tout, etc. Peut-être même, elles se rendent même pas compte, c'est inconscient, mais toi, tu ressens tout. Moi, je ressentais tout. Et donc, je me dis, mais enfin, en fait, je vaux beaucoup mieux que ça. Et donc, du coup, il va falloir que je sorte du cocotier pour pouvoir détendre mes ailes, développer ma créativité, aller là où je dois aller, m'aligner. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ce que j'ai fait. Et qu'aujourd'hui, l'univers de la pâtisserie revient vers moi. Parce que tu vois, j'appartiens pas à un palace, j'ai rien fait de conventionnel, et aujourd'hui je me retrouve quand même dans plein d'organisations, dans plein de confidences de pâtissiers, voilà, sur tous les concours et sur tous les salons. Donc finalement, je suis vraiment au cœur du game, je le connais très très bien, tu vois, ce cocotier. Mais il a fallu en sortir pour prendre de l'aisance et de la confiance.
Finalement, tu dis que l'élément qui manquait dans l'excellence, dans la recherche de l'excellence, c'était aussi la recherche de l'excellence managériale, finalement.
Oui, complètement. En fait, pour moi, ça va de pair. Je pense pas que tu puisses construire l'excellence dans la terreur. En fait, une excellence qui a pas de saveur pour moi et qui a pas de profondeur. Tu vois, pour moi, l'excellence, elle doit aussi être... Alors, attention, hein... Ça veut pas parce que tu es un manager pédagogue, etc., qu'il n'y a pas des moments où ça doit être dur, des moments où tu vois, parce qu'en plus on évolue dans des sphères haut de gamme, donc il y a une rigueur qui doit être là et il y a beaucoup d'exigences, d'attentes, donc des fois de pression. Ça fait partie du métier, donc conjuguer en fait le talent, enfin l'excellence d'une technique, l'excellence managériale, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de notre siècle, je pense.
Ouais. Oui, il y a un vrai enjeu de mêler tout ça. Et justement, toi, alors, aujourd'hui, tu es manager à l'atelier Orae. Tu manages. Donc, justement, comment tu fais pour, être pédagogue, ne pas être d'humeur changeante, motiver, faire grandir tes équipes. Enfin, voilà, tout ce qui te porte à cœur et tu n'as pas trouvé, finalement, dans tes premières expériences, comment tu fais pour le transmettre à tes équipes?
En fait, déjà, je pense que quand j'ai commencé à recruter, je commençais à pleinement m'aligner avec qui j'étais. Donc, je pense que parallèlement à un bon manager, il faut déjà soi-même se développer. Tu sais, c'est comme un psy qui veut aider les autres. Je pense que s'il a pas fait son analyse, tu vois, personnelle et son cheminement, c'est un peu compliqué d'aller aider les autres quand toi t'as pas fait le travail. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé et d'être en confiance, aligné avec mon pourquoi dans les mains et dans la tête, avec une vision claire de là où je voulais aller. Et donc, quand j'ai commencé à recruter, je me suis tout de suite fait coacher parce que je la connaissais et je savais que là, il y avait un enjeu. Parce que je comprenais, pour l'avoir vécu, qu'on pouvait détruire des personnes en faisant mal les choses. Voilà, ça va vite hein, de mal régler un conflit, de ne pas poser bien le cadre, etc. Et donc, du coup, c'est un vaste chantier, en fait, finalement. Donc moi, je préférais à la base, dès le départ. Donc, du coup, cette coach m'a permis de comprendre que j'avais trois casquettes. Une de dirigeante, voilà, tu gères une société en t'assurant qu'elle se porte bien financièrement. Dans les grandes lignes, c'est ça. Tu es manager, donc tu donnes à tes équipes les moyens et l'attention, voilà, les moyens à tous les niveaux, les moyens matériels, les moyens humains, les moyens et une attention particulière pour qu'ils évoluent dans de bonnes circonstances. Et tu es aussi leader, parce que tu portes la vision. Donc en fait, quand j'ai compris que j'avais ces trois casquettes-là, je pense que j'ai inconsciemment pris possession de ces trois casquettes et du coup j'ai été attentive en fait et je savais quand est-ce que je passais en mode dirigeante, enfin tu vois, je sais quand je passe en mode leader, je sais quand je passe en mode manager et donc du coup c'était important pour moi d'avoir ces outils là pour me positionner parce que parfois tu peux le faire mais sans t'en rendre compte et en fait tu sais plus trop où tu en es et là en fait là c'est la manager qui parle, là c'est la dirigeante qui parle et donc des fois tu peux avoir des tons un peu différents ou des propos un peu différents parce que là c'est pas la même personne. Et le management, moi après donc je suis rentrée vraiment dedans avec cette coach pour comprendre en fait qu'est-ce qui se jouait chez l'autre, comment mettre un cadre de travail pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Donc des outils très simples avec une fiche de poste, on a même développé l'éventail de délégation et puis des rituels managériels comme je les appelle qui sont soit hebdomadaires, soit mensuels, soit trimestriels, soit annuels avec des points réguliers où tu t'intéresses à tes équipes, à savoir sur le plan perso et pro comment tout se conjugue parce qu'en finalement t'as un humain mais il lâche pas, enfin on dit tu lâches tout avant d'arriver au travail mais en vérité il porte en lui le bagage de son perso tout le temps. Donc si dans son perso il y a des choses qui vont pas, donc voilà, tout est relié et depuis que je fais ça je me rends compte que l'humain c'est un vaste sujet.
Ah oui, ça c'est évident.
D'autant plus quand tu laisses la porte à l'ouverture, la communication, donc toi tout le monde se sent en confiance. Moi l'objectif c'est vraiment de faire élever les gens. Quand on vient travailler avec moi, on repart pas indemne entre guillemets. Dans le sens où je t'amène à te questionner sur toi. Quand tu travailles avec moi, parce que j'aime le côté très responsable par exemple, je rends les gens très responsables donc je délègue beaucoup. Parce que je les ramène à leur rôle, tu vois, d'adulte, de professionnel. Parce que j'ai trop vu en entreprise des comportements de bac à sable. Et donc moi, ça, c'est pas possible. Je travaille avec des humains, des adultes. On est là pour un projet commun. Et ça, c'est un très fort dans mon management. C'est que on peut tout faire pour tout se dire. On agit en adulte, dans un groupe adulte et donc mature. On met en place plein de choses pour que le groupe soit mature. Donc s'il y a un comportement immature, en fait, il sort du jeu tout de suite et on le remarque. Donc moi, je le tolère pas. Donc j'appelle ça ces petits grains de sable. Je fais un focus tout de suite en me disant « Oulala, jumelle, focus direct sur ce petit grain de sable. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et vite, redonner entre guillemets la charge, la responsabilité à chacun. Parce que ça va vite de dire c'est la faute de si, ou j'ai pas compris, etc. Et moi, en fait, je supporte pas cette attitude-là. Alors moi, si j'ai aussi ma part de responsabilité, j'ai aucun problème à l'assumer. Mais par contre, avant, j'aurais pu même carrément me dire je suis désolée, c'est ma faute, etc. Parce que t'as pas assez confiance en toi, donc tu penses que c'est toi. Et t'as des gens, c'est l'inverse, c'est toujours la faute de l'autre. Et puis après, peut-être oui, c'est moi. Moi, c'était l'inverse. Et par contre, maintenant, aujourd'hui, j'arrive complètement à dire attends, là, il y a un souci, et je pense que ta responsabilité, elle est là.
C'est intéressant parce que du coup, il y a plusieurs dimensions pour toi. J'aime beaucoup les trois casquettes du coup que tu prends et c'est pas forcément évident justement de switcher. Est-ce que tu informes tes équipes en disant là je suis en casquette dirigeante, là je suis en casquette manager ou comment ils le détectent ou vous êtes fixé un code ?
Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'affiche régulièrement pourquoi je suis là. Donc dans l'entreprise. Donc voilà, moi je suis garante de quoi ? Je suis garante du bien-être de l'équipe, je suis garante de la nouvelle stratégie, je suis garante de l'équilibre financier, je suis garante de l'image. Et donc du coup, elles savent. Et pourquoi je suis là ? Et qu'est-ce que je fais là ? Et qu'est-ce que... Voilà. Et donc du coup, comme tout est très clair, parce qu'on communique beaucoup, jusqu'à nos émotions, etc., puisque chaque semaine, on parle de notre météo. Et c'est pour dire qu'à quel point, en fait, cette ouverture et cette transparence, c'est vraiment le mot, aide les équipes à se sentir bien. Il n'y a pas de loup. Même au niveau salaire, tu vois, enfin, je pense que tout le monde sait à peu près qui gagne quoi. Moi, j'ai aucun problème à parler de salaire. Quand j'ai des réunions, des fois des rendez-vous comptables, etc., alors je suis pas bête, s'il y a des choses vraiment qui nécessitent une intimité, je vais la prendre, mais j'ai aucun problème à avoir des discussions avec mes conseillers, etc., parce qu'on est là pour travailler ensemble et il n'y a pas de attends, je te rappelle, qu'est-ce qu'elle manigance. Ça va vite hein, pour un employé de penser que mais attends, on fait entrer de l'argent, mais cet argent va où, etc. Donc moi, j'ai beaucoup de transparence et ça, je pense, ça enlève pas mal de questionnements quand t'as des petites frustrations, tu vois, et que du coup, t'arrives pas à les exprimer parce que c'est ça le problème aussi de la communication, c'est quand on n'arrive pas à dire les choses. Et donc du coup, le fait que moi je dise les choses, ça annonce tu vois pas mal la couleur et donc on est sur une transparence linéaire. Et moi, je refuse catégoriquement de travailler avec des enfants quand je travaille avec des adultes. Donc j'écarte vraiment tous les comportements immatures de mon organisation.
Et quand il y en a qui arrivent comme ça, justement, comment tu recadres ça? Comment tu repositionnes en position adulte?
Ça peut prendre plein de formes. Alors comme je suis très sensible, je capte, je me rends compte si c'est le bon moment ou pas le bon moment de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne tarde pas. C'est-à-dire que je vais prendre la mesure de ce qui s'est passé. Je vais aussi consulter un peu les équipes, prendre un peu la température pour pas réagir à chaud, parce que je suis quand même une émotionnelle. Donc je vais avoir tendance à réagir intérieurement vite. Mais après, je prends du recul. Et après, quand mon avis est fait et que j'ai un avis très clair sur la question, je convoque la personne. Enfin, je lui dis, tiens, ça serait bien qu'on... Tiens, je pourrais parler 2 minutes. Ou tiens, j'ai un truc. Faudrait que je te vois. Ou tiens, voilà, on prend une seconde, une minute là, mais j'ai quelque chose à te... Alors ça, c'est vraiment dans les cas où il y a quelque chose qui me déplaît, tu vois, vraiment. Ouais. Ou qui m'a pas plu, ou qui m'a interrogé, etc. Et voilà. Mais aussi, tu sens quand c'est le bon moment. Ça, c'est important.
Le tempo.
Le tempo, ouais. Et je pense que c'est tout l'art de la communication, en fait, c'est d'être attentif à l'énergie de l'autre et à ce qu'il renvoie. Et donc ça, c'est important. Souvent, les gens ne font pas attention à ça. D'ailleurs, tu le vois. Ceux qui n'arrivent pas à bien communiquer, qui ont des problèmes de communication, c'est des gens qui ne font pas attention à l'énergie de l'autre. Et ils partent d'eux, en fait. Moi, je pars jamais de moi, parce que moi, je sais que de toute façon, je vais réagir vite. Donc, je pars de l'autre, comment il est, etc. Et après, quand je vais lui parler, je vais adapter. Tu vois, par exemple, je peux dire à mon mari, je vais lui dire... Oh, mais c'est pas possible, non mais attends, mais t'imagines, enfin, tu vois, à chaud comme ça, je vais être énervée ou je vais vraiment...
Je vois bien.
Tu vois, et puis, voilà, mais quand je vais être avec la personne, je vais jamais dire ça, je vais être hyper posée, mais j'ai juste besoin d'évacuer un petit peu, il est là, il est pas là, bon, je vais pas le faire si il est pas là, mais c'est vrai que s'il est là, tiens, je vais lui dire, et puis après, de toute façon, ça va, je sais que je vais me calmer tout de suite parce que je vais m'adapter à l'énergie de l'autre. Alors, je vais toujours tout dire, mais je vais juste m'adapter, mon discours, voilà, ouais. C'est ça.
En tout cas, j'aime beaucoup parce que tu parles d'alignement. J'aime aussi l'énergie que tu renvoies. Moi aussi, je suis assez sensible à tout ça, donc je suis assez sensible aussi à ça. J'aime beaucoup aussi le conseil que tu donnes d'être soi-même, en fait. Finalement, il ne faut pas tricher quand on est manager ou essayer de devenir comme celui qu'on a été managé, enfin, dans la manière dont on a été managé, ou etc. Être aligné. J'aime beaucoup aussi le conseil que tu nous donnes sur l'approche que tu as eue de te faire coacher justement sur ce premier acte managérial qui est le recrutement et que parfois on néglige un peu ou alors on pense que le management ça commence après une fois que la personne est recrutée alors qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi à ce moment-là et je trouve ça du coup très mature pour le coup d'avoir pris la mesure en fait de cet acte de ce premier acte managérial donc bravo pour ça, c'est super chouette et j'aime beaucoup aussi cette notion de proactivité, de rendre les gens responsables de leur avenir de leur évolution finalement, d'être maître à bord, de les responsabiliser
complètement,
c'est chouette.
Voilà. Et je pense que c'est le propre d'un management horizontal, c'est que on est tous des êtres humains à égale valeur, et on fait juste des choses parfois différentes dans l'entreprise, et du coup, ben voilà, parfois les salaires peuvent évoluer en fonction aussi de ce que tu vas offrir et apporter, mais ce qui est important, c'est qu'on soit tous sur un pied d'égalité sur un certain nombre de points, et notamment du coup, ben voilà, t'as ta fiche de poste, donc... Toi, autant que Inès, autant que Bénédicte, enfin voilà, je nomme les filles de mes équipes, mais voilà, vous êtes dans l'entreprise, vous avez peut-être des salaires différents, peut-être des postes différents, mais vous avez toutes une fiche de poste et vous avez toutes une responsabilité envers cette fiche de poste-là. Tout comme vous avez une responsabilité envers tout à chacun, l'autre en face de toi, de communiquer, de bien dire les choses, etc. Et donc, tu vois, sur plein d'aspects, je les ramène à... on est toutes égales à ce niveau-là. Et donc, du coup, il n'y en a pas une qui peut se permettre de, tu vois, de crier sur l'autre. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais toujours d'un bon ton. Et s'il y a quelque chose qui vraiment m'énerve, m'agace, je vais le dire. Mais je pense que de la même façon, si elles, il y a quelque chose qui les agace, elles vont aussi le faire, tu vois.
Oui.
Et donc, du coup...
Et tu accueilles ça.
J'accueille complètement. Et si je pense que c'est justifié, bah moi, je vais être dans l'échange et je vais dire complètement, t'as raison. Et puis, l'intérêt aussi, c'est de dire, bah, c'est pas d'attendre aussi d'en avoir marre, c'est de dire, ok, j'entends ta plainte, mais du coup, enfin... avant d'arriver en mode plainte, pourquoi les choses n'ont pas été dites avant. Et puis, dans un premier temps, tout le monde fait des erreurs, donc c'est OK. Enfin, pas la peine de se mettre dans cet état-là, tu vois, pour ça. Mais on va faire attention, on va réagir tout de suite, parce que je suis très active, très proactive, enfin, ou très... je réagis vite, en tout cas. Je laisse pas faire. Donc, dès qu'il y a quelque chose, boum, je réajuste. Donc, il n'y a pas la place à des frustrations, parce que, du coup, je laisse pas ça, en fait. Et ça peut, justement, ben, frustrer dans le sens où quand t'es habitué d'être dans des entreprises frustrantes, où t'es habitué à toujours un peu ralouiller, parce qu'il y a toujours... On aime bien accuser les tu vois... Et en France, c'est très fort, ça. Mmh. Accuser les organisations, accuser le boss, accuser le N+1, accuser son voisin, etc. En fait, bah, moi, je supporte pas ça, donc du coup, je te ramène direct à toi. Et si je sens que c'est pas juste, je peux t'assurer que tu vas le savoir. Tu vas vite comprendre que ta plainte-là, elle est pas justifiée. En fait, c'est de toi dont tu as besoin de... Enfin, tu as besoin de travailler sur toi, parce que là, le problème vient de toi. Donc, j'ai aucun... Voilà, je suis hyper ouverte, parce que je me dis à tout moment, on peut faire une erreur et c'est OK. Et si c'est ça, on réajuste tout de suite. Et si la personne arrive avec une mauvaise intention ou une mauvaise critique, ou voilà, je vais aussi savoir bien l'identifier pour lui dire, attends. Là, t'es en train de me la jouer à l'envers. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, là, le problème, il vient de toi. Ça perturbe un peu parce que ça, bah, ça ramène à soi, en fait. Mmh. Donc, forcément, nous, dans l'atelier, on provoque des remises en question. Mais des évolutions aussi, du coup.
Alors, si tu avais un conseil à donner à un de tes managers en brigade, voilà, tu nous as parlé de plein de choses, hein, de transparence, de délégation, de faire grandir. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui tiennent à cœur. Si tu avais un seul conseil, le premier pas par lequel il devrait commencer pour aller un peu plus...
Ouais. Cadrer. Ça, c'est le plus important. Et comment? Ben, c'est avec des outils. Et ça, c'est la fiche de poste. On n'arrive pas dans un métier, dans un travail, juste dans les t'es commis, t'es là. Non. C'est quoi mon travail en tant que commis? C'est quoi ma mission tous les jours pour venir là? Et demain, si je suis plus commis, j'ai évolué, ben, ma fiche de poste change, ma mission change, etc. Donc, ça, le cadrage, c'est la base de la base de la base. On peut pas commencer sans ça. Et ensuite, viendra juste derrière un management.
Personnalisé.
Il faut pas essayer. On prend les outils qui sont nécessaires parce que tiens, quand on a un conflit, comment on peut le régler, etc. Mais après, la vérité, c'est que ça se passe sur le terrain à tout moment. 365 jours dans l'année, tu les as. La nuit, le soir, à tout moment, il peut y avoir un truc. Donc en fait, si tu essayes de rentrer dans un moule ou de dire, alors attends, il faut que je fasse comme si... Et c'est pas naturel, ça te coûte. Je suis désolée, mais moi, j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de travail à côté. J'ai pas envie que ça me coûte. Alors ça va me coûter une certaine énergie parce qu'il y a une attention, il y a un accompagnement, etc. Mais alors en plus, si je devais me mettre dans de la peau de quelqu'un qui me dit alors en fait je t'explique, ta posture elle doit être comme ci, comme ça. Tu peux pas dire si tu peux pas dire ça, c'est hors de question. Donc après le cadrage, c'est la personnalisation de son management avec une grande qualité de communication. Ça, c'est super important parce que justement, tu vas personnaliser ton management, mais tu dois savoir est-ce que ça plaît, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aligné. Donc, savoir entendre, savoir écouter, c'est hyper important, tu vois, derrière.
On sent que l'humain, c'est ta flamme, finalement.
Ouais, et donc, du coup, je suis assez... Avant, j'étais intolérante sur les gens qui n'étaient pas à la hauteur parce que je trouve que, en fait... Tu déconsidères ton rôle en tant que manager, parce que du coup, tu ne te formes pas ou tu fais ça à la volée, etc. Et en fait, tu détruis les gens. Tu détruis les gens, faut dire ce qui est. Les gens vont au travail, ils sont pas heureux. Et c'est pas le travail en lui-même, c'est les gens derrière. Ça me met un peu hors de moi quand j'entends des choses et j'aurais été incapable de supporter le... Et souvent d'ailleurs, j'ai des discours assez forts quand j'entends des gens qui parlent de leur expérience. Je dis mais comment t'as fait? Moi, jamais j'aurais pu supporter ça. C'est pas possible quoi. donc je pense que j'ai beaucoup de choses à faire dans le management et j'aimerais bien développer peut-être des choses plus tard.
Mais en tout cas, on en reparlera en tout cas, mais visiblement il y a du boulot dans les brigades. Apporter du cadre. Et puis ce que j'aime bien, c'est le côté cadre technique et du cadre relationnel aussi. Oui. Enfin aussi de cadrer aussi un petit peu la manière dont on va communiquer, dont on va échanger. Alors j'ai deux dernières questions pour toi, Johanna. La première, c'est du coup ce podcast s'appelle Tempo. Donc qu'est-ce que c'est le tempo pour toi?
Eh ben le tempo pour moi c'est la juste mesure. Parfois il faut aller vite, parfois il faut aller plus lentement. J'ai appris à aller lentement, parce que j'avais quelqu'un qui va très vite. Pour faire écho à une phrase qu'on m'avait sortie à mon apprentissage, j'ai envie de courir avant de savoir marcher, parce que je voulais tout apprendre tout de suite. Et donc j'ai appris à me poser, mais je pense que c'est l'art de la juste mesure. Il y a des moments où tu sens qu'il faut accélérer, il y a des moments où tu sens qu'il faut décélérer. C'est tout ça un apprentissage.
Ouais. Ça s'apprend, ça s'expérimente.
Ça s'expérimente.
Ça s'adapte. Voilà,
oui, parce que du coup, tu sens quand tu vas trop vite, et quand tu vas trop vite et que tu t'écoutes pas, tu craches quoi. Donc, ou quand tu vas trop lentement, t'es trop mou, t'es trop lent, donc les choses passent devant ton nez.
Ouais.
Donc après, c'est à toi d'ajuster. Le problème souvent des gens comme moi qui ont beaucoup d'énergie, qui vont vite, c'est que du coup, bah, comme on a de la ressource, bah, on dépense, quoi.
Ouais.
Et en fait, j'ai appris à me dire... Parce que des fois, je voyais des gens plus lents, mmh, et moins d'énergie. Et j'ai dit, bah, du coup, eux, comme ils ont moins d'énergie, ils doivent mieux calculer, tu vois. Plus qu'ils savent qu'ils ont une énergie donnée dans la journée, ils vont être peut-être plus efficaces que moi. Parce que du coup, ils savent qu'ils n'auront pas des ressources illimitées. Donc voilà. Et donc, quand tu observes ça, tu dis, bon, peut-être qu'il y a des chances que ça marche mieux parfois si je décélère. Et c'est totalement vrai, en plus. Tu prends un pas de recul, tout ça va bien se passer. En fait, ça se passe bien.
Super. Et dernière question. Et si le management était une chanson, ce serait laquelle ?
Oula. Je sais pas te répondre là. En plus, moi, avec les musiques, j'ai du mal, mais j'ai pas l'inspiration. Mais si je l'ai, je te la partagerai.
D'accord, ça marche. Eh ben, on attend. En tout cas, merci Johanna.
Merci à toi Cindy.
À bientôt.
À bientôt.
Alors moi, perso, j'ai beaucoup aimé les secrets de cuisine de Johanna. Et vous, quels sont vos ingrédients ? Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le Kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.